La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Présence pour la prédication protestante. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous connaissez Jerán Campanella ? Peut-être pas. En fait, Jerán Campanella, c'est un youtubeur américain conspirationniste platiste, adepte donc de la théorie qui affirme que la Terre est plate et qu'un complot international nous fait croire qu'elle est sphérique. Et pour info, c'est une théorie qui regroupe quand même 16% des Américains, des États-Unis, et enfin à peu près 9% des Français quand même, qui mettent en doute le fait que la Terre est sphérique. Donc statistiquement, ça concerne une bonne partie de vous, chers auditeurs, et de nos concitoyens français. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 14 décembre dernier ? Jerán Campanella a été invité en Antarctique pour venir observer si le soleil se couchait là-bas. Et au bout de 24 heures sans coucher de soleil, il a sorti sa caméra, il a filmé et il a communiqué sur ses réseaux sociaux, je cite, « Le soleil fait exactement ce que ces gars ont dit », avant d'ajouter « Parfois, on se trompe dans la vie ». Cet homme a eu besoin de voir pour y croire. Et on va voir dans ce texte qu'on va lire ensemble qu'on lui ressemble finalement beaucoup. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles en 2 Rois au chapitre 6 et je vais lire les versets 8 à 23. 2 Rois 6, 8 à 23. Et ce texte nous invite à ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles. Je lis en version second 21 à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent ». Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, monseigneur le roi, c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On vient lui dire « Il est à Dothan ». Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit « N'aie pas peur. » Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Veuille frapper cette nation d'aveuglement !» Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas le bon chemin, et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, « Faut-il les tuer, mon père ?» Élisée répondit, « Tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils repartent ensuite vers leur seigneur. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alors dans ce texte, on va parler dans un premier temps des réalités visibles. Et vous, ça ne vous a pas échappé, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est la guerre. L'ennemi, donc le roi syrien, cherche à prendre l'adversaire, le roi d'Israël, par surprise. Et il n'y arrive pas. Et il finit par essayer de traquer la taupe dans l'équipe. Mais la réponse à sa question est assez décourageante. Il n'y a pas de traître. Il n'y a pas de traître chez les serviteurs du roi syrien. En revanche, ses serviteurs savaient bien qui transmet ces informations. C'est Élisée. Et regardez la puissance d'Élisée. Il est capable de transmettre ce que dit le roi de Syrie dans l'intimité de sa chambre, directement au roi d'Israël. Et je trouve ça intéressant de voir la réaction du roi de Syrie qui, lui, prend l'information au sérieux et dans un sens, il ne comprend pas tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'il y croit vraiment ? Ben parce qu'il demande où est Élisée et qu'il envoie des troupes. Il réagit logiquement. On va chercher l'ennemi. Mais pourquoi il ne comprend pas non plus vraiment ? Parce que regardez ces détails du texte. Il envoie les troupes de nuit pour encercler la ville, verset 14. Comme pour essayer de surprendre le prophète Élisée qui, lui, déjouait tous ses plans secrets. Et je trouve ça intéressant de voir qu'on lui ressemble bien souvent. On comprend en partie et on est en partie encore aveuglé. On observe bien les réalités visibles et on réagit en fonction, mais on oublie. Ou juste on ne voit pas bien les réalités invisibles. On a tous donc besoin du collyre spirituel qu'est notre relation régulière à Dieu au travers de sa parole et au travers aussi de la communauté des croyants. Et ici dans le texte, plus que les réalités invisibles, il est bien sûr question des réalités spirituelles. Le texte ne nous dit pas exactement combien d'années sépare ce récit avec la guérison miraculeuse du chef de l'armée syrienne, Naaman, dans le chapitre précédent de 2 Rois. On sait qu'Élisée, lui, est toujours en vie. Et donc, probablement qu'à la cour du roi de Syrie, il y a à minima des gens qui en ont entendu parler, ou voire même qui ont vécu 2 Rois 5. Et pourtant, l'aspect spirituel est complètement mis de côté, oublié par les Syriens. Ils sont aveuglés à ce niveau-là. Et je disais tout à l'heure qu'on leur ressemble probablement beaucoup. On a peut-être déjà lu, peut-être déjà entendu ou vu par le passé Dieu à l'œuvre. Et pourtant, on oublie quelque temps plus tard quand vient l'épreuve. On s'en remet à nous-mêmes au lieu de nous tourner vers Dieu. Les chrétiens de tout âge croient que Dieu est tout-puissant, qu'il peut intervenir dans les situations les plus complexes. Et pourtant, on réagit souvent en cherchant des solutions très terre-à-terre, où le spirituel n'est même plus envisagé, ne rentre même plus dans l'équation. Alors, il est certes bon d'avoir les yeux ouverts sur les réalités visibles du monde, mais il est plus que nécessaire de les garder bien ouverts sur les réalités invisibles, les réalités spirituelles. Et pour cela, on peut observer le dialogue central de notre texte, l'échange magnifique d'Élisée avec son serviteur, des versets 15 à 17. Imaginez juste un instant. Le serviteur d'Élisée qui ouvre les volets de la maison gaiement et sort pour aller chercher de l'eau au puits qui est juste à l'entrée de la ville, comme tous les jours. Sauf que là, terreur. Quand il approche du puits, il voit des dizaines et des dizaines de chars syriens, des chevaux en grand nombre et des fantassins qui sont justement en train de puiser dans ce puits pour abreuver toute cette armée et tous ces chevaux. Quand le serviteur tourne la tête à gauche, puis à droite, des Syriens partout. La ville est cernée, les minutes sont comptées, la fin est là. C'est malheureusement un sentiment qu'on peut parfois connaître. Notre impuissance face à une situation qui nous dépasse, qui est trop compliqué pour nous. On peut être tenté de dire ce qu'a dit ce serviteur. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? Qu'est-ce que je vais faire ici et maintenant? Je regarde à gauche et à droite. Aucune solution. Comme ce serviteur, je suis cerné. Je suis certain que parmi les auditeurs, beaucoup vivent ou ont vécu ces impasses terrifiantes où nos limites, notre impuissance est mise en lumière. Alors que faire? La réponse à cette question terrifiante, c'est Élisée qui nous la donne. N'aie pas peur. N'ayez pas peur. Et s'il s'était arrêté là, ça aurait été insuffisant. On connaît tous ces encouragements yaka faucon. Parfois, c'est même nous qui les donnons. N'y pense plus. Ça va passer. T'as qu'à oublier. Ne sois pas craintif. On botte en touche. Mais ce n'est pas suffisant. Sur quelle base je devrais arrêter de m'inquiéter, croire que ça va aller mieux? On a besoin de plus, on est d'accord? Comme ce platiste qui a eu besoin de voir, de se déplacer en Antarctique pour y croire. Et heureusement, la Bible nous donne des raisons tangibles de croire et d'espérer. La preuve, c'est qu'Élisée poursuit, et sa phrase ne s'arrête pas à « n'aie pas peur ». Il dit « n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et j'aime beaucoup cette phrase, je dois vous avouer. Remarquez avec moi l'équilibre génial qu'il y a dans cet encouragement. D'un côté, Élisée ne nie pas les réalités visibles, il les voit clairement. Mais de l'autre côté, Élisée met ses réalités visibles en perspective avec les réalités invisibles. Et c'est souvent cet aspect-là qui nous manque. Ceux qui sont avec nous sont juste plus nombreux. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est juste bien plus grand que ton souci actuel. Son pouvoir est plus grand que le pouvoir du Kremlin, plus grand que le pouvoir de Trump, plus grand que le pouvoir de l'OTAN, même plus grand que le pouvoir de la mort. On va revoir ça à Pâques bientôt. C'est si bon d'entendre un frère, une sœur, nous rappeler avec douceur les réalités spirituelles pour nous encourager dans nos sombres impasses. Et là, Élisée va encore plus loin. Par compassion et besoin de son serviteur, il prie que Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voie vraiment et comprenne. Un peu comme si devant un film, on vous donnait des lunettes qui vous font voir le fond vert qui est normalement invisible à l'œil nu. Et bien là, au verset 17, le serviteur voit le fond vert, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Et cette symbolique dans un monde militaire, où le char est un peu le tank de notre époque, nous montre bien la puissance démesurée de Dieu, d'une part, et sa proximité dans l'hostilité, d'autre part. Et on a besoin de repasser ces deux vérités dans notre cœur, surtout dans un contexte d'hostilité. Dieu est puissant, Dieu est proche, puissant et proche. J'imagine le soulagement que ça a dû être pour ce serviteur. Voir ces chars de feu, et on peut imaginer conduits par une armée d'anges. Quand on perd les pédales et qu'on refixe nos yeux sur les réalités spirituelles, qu'on les repasse dans notre cœur, on est inévitablement encouragé. Pourquoi ? Pas parce qu'on devient aveugle sur les réalités visibles, c'est pas ce que fait Élisée, mais parce que les réalités spirituelles prennent le dessus. Ils sont plus nombreux. Et c'est en vertu de ces réalités que Élisée va agir dans la suite du texte où nous voyons les réalités invisibles paraître, des versets 16 à 23. Et si nous avons, nous, lecteurs du 21e siècle, eu le privilège de voir cette armée céleste du verset 17, les Syriens, eux, ne voient rien et ils descendent vers Élisée, là où tout bon soldat, saint d'esprit, aurait sonné la retraite ou imploré la pitié. Eux, ils descendent. Et l'ennemi, notre ennemi, agit souvent de cette manière, ignorant Dieu et les réalités spirituelles qui accompagnent ses enfants, ce qui nous pousse parfois à douter. mais nous devons mettre le focus sur les réalités spirituelles plus que sur les réactions de l'ennemi et les circonstances autour de nous. Élisée avait fait une prière pour ouvrir les yeux de son serviteur et il va en faire deux autres, pour d'une part aveugler et rendre la vue à ses ennemis syriens. On voit ça des versets 18 à 20. En fait, il va les mener à la baguette. Vous savez, la forte troupe qui encerclait le village de Dothan et qui devait capturer Élisée avec les chars, les chevaux, tout ça, eh bien, ils vont se retrouver au cœur du réacteur ennemi, à Samarie, la capitale du royaume d'Israël. Et là, c'est pas la même histoire. Imaginez deux secondes, l'unité d'élite des soldats russes censée venir en renfort de ceux déjà sur le front ukrainien, sauf que le stagiaire de l'unité d'élite se trompe en paramétrant le GPS et ils arrivent en plein territoire ukrainien, derrière le front. Alors c'est une sacrée boulette, certainement, mais c'est surtout une magnifique occasion pour les Ukrainiens de prendre le dessus sur l'adversaire. Et là, on a le roi d'Israël qui, j'imagine, trépigne d'impatience. Verset 21, il pose cette question. Est-ce qu'on peut les tuer ? Sauf que Élisée répond, non, tu ne les tueras pas. Et Élisée veut démontrer que Dieu accorde le salut, même à ses ennemis. Il veut montrer que Dieu est un Dieu qui a un salut qui dépasse notre perspective. À la place, voici ses instructions, verset 22. Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. Alors, la question se pose, qu'est-ce que vient faire ce repas à ce moment-là? C'est étrange, vous ne trouvez pas? Alors, il faut savoir que dans le contexte de l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, un repas vient pour conclure et entériner une alliance, un peu comme lors d'un repas de mariage. Et on ne peut pas oublier un repas que Jésus lui-même, un bien meilleur Élisée, a institué. C'est un repas qui nous parle d'une alliance étonnante, où, exactement comme dans ce texte, des ennemis auraient dû mourir, mais ont été finalement invités à table. Ce repas nous parle de nous tous. Nous tous, les ennemis de Dieu. Rebelles dans notre être profond, infectés dès notre naissance par le péché. Incrédules, manquant de foi tellement souvent. Nous aurions dû subir la peine capitale. Nous aurions dû mourir, ne pas être épargnés. Mais c'est Jésus-Christ qui a subi cette condamnation à notre place, par amour, et qui en échange nous propose une alliance de grâce et de paix. Et cette alliance est bien meilleure que celle qu'on voit ici dans le texte. Parce que regardez le verset qui suit notre texte, le verset 24, il y a un nouveau roi, Ben-Hadad, qui oublie cette alliance et qui monte contre Samarie et l'assiège. Donc la paix du verset 23 a duré finalement peu de temps. Et on pourrait être inquiet pour l'alliance que Christ nous propose. Sauf que dans cette nouvelle alliance, en Jésus-Christ, il ne faut pas s'attendre à un nouveau roi, puisqu'il règnera éternellement. Il ne reviendra pas sur cette alliance qu'il a conclue au prix de son sang. C'est ce qui rend ce repas allianciel tellement glorieux, tellement généreux et tellement sécurisant pour tous ceux qui profitent de cette offre de grâce et de paix proposée par Jésus-Christ. Souvenons-nous de cela. Ce repas allianciel est glorieux, généreux et sécurisant pour tous ceux qui profitent de cette offre de grâce et de paix proposée et disponible en Jésus-Christ. Prions que ceux qui sont encore ennemis de Dieu, pour un temps peut-être, recouvrent la vue et saisissent avec foi l'invitation à ce repas pour être au bénéfice de la grâce en Christ, éternellement en paix avec Dieu. Que nous puissions tous garder les yeux ouverts pour contempler véritablement Christ dans notre quotidien.
Je compte.